3. On traversa les vastes flaques d'eau stagnantes. La plupart étaient peu profondes, mais par endroits, je m'enfonçais presque jusqu'aux genoux et je sentais la vase qui essayait de m'arracher mes baskets. Radar me suivait facilement, la langue au vent, le regard brillant. Son pelage trempé et emmêlé collait à son corps musclé, mais elle s'en fichait apparemment. On était parti à l'aventure. Les bâtiments en question ressemblaient à des entrepôts. Arrivé devant, je pris le temps de relasser une de mes baskets trempées. Je me retournai vers le piédestal. Je ne voyais plus ma marque. La statue détruite se dressait à 100 mètres derrière nous, au moins. Mais je savais où elle était. Les bras tendus, un devant et un derrière, je m'élançai entre les deux bâtiments accompagné de Radar. C'était bien d'anciens entrepôts. On sentait encore l'odeur fantôme du poisson qui avait été mis là il y a très longtemps. Mon sac à dos tressautait et cognait contre mes reins. On déboucha dans une ruelle bordée d'autres entrepôts. Tous semblaient avoir été forcés et sans doute pillés. Les deux qui nous faisaient face étaient presque collés l'un à l'autre, impossible de se faufiler au milieu. Alors je tournai à droite, avisai un passage et m'y engouffrai. Au bout se trouvait un jardin privé envahi par la végétation. Je bifurquai à gauche, espérant ainsi retrouver ma trajectoire en ligne droite, et continuai à courir. J'essayais de me dire que ce n'était pas le crépuscule. Pas encore, pas déjà. Mais bien sûr que si. Évidemment. Sans cesse, je devais contourner des bâtiments qui se dressaient sur notre chemin. Et sans cesse, j'essayais de retrouver la direction où étaient apparus les papillons. Je n'étais plus sûr de moi, mais j'étais obligé d'essayer. Je n'avais pas d'autre solution. On passa entre deux imposantes maisons de pierre, dans un espace si étroit que je dus me mettre de profil. Radar n'avait pas ce problème. En ressortant, je découvris sur ma droite, entre ce qui avait dû être un musée grandiose et une serre aux parois vitrées, le mur d'enceinte de Lilimar. Il dominait les bâtiments situés de l'autre côté de la rue, et le sommet disparaissait au milieu des nuages bas. « Radar, viens !» Dans cette obscurité, impossible de savoir si la nuit, la vraie, était tombée ou pas, mais j'avais terriblement peur que ce soit le cas. On dévala la rue dans laquelle on venait de déboucher. Ce n'était pas la bonne, mais elle n'était pas très loin de la route des Galiens, je le sentais. Devant nous, les bâtiments cédèrent la place à un cimetière. Encombrés de pierres tombales inclinées, de plaques commémoratives et de plusieurs constructions qui devaient être des cryptes. Le dernier endroit où j'avais envie de m'aventurer après le coucher du soleil. Mais si j'avais vu juste, Seigneur, faites que j'ai raison, c'était le chemin qu'on devait emprunter. Sans même ralentir, je franchis la haute grille entr'ouverte et pour la première fois, Radar hésita, les pattes avant sur une dalle de béton effritée, les pattes arrière dans la rue. Je m'arrêtai aussi, le temps de reprendre mon souffle. Moi non plus, ça ne me plaît pas. Mais il le faut. Alors viens ! Elle obéit. On zigzaga entre les pierres tombales. La brume du soir montait des herbes hautes et des ronces. Droit devant, à moins de 50 mètres, j'apercevais une grille en fer forgé, trop haute pour être escaladée, même si je n'avais pas eu ma chienne avec moi, mais il y avait une porte. Je trébuchais sur une tombe et m'affalais. En me relevant, je me pétrifiais, refusant tout d'abord de croire à ce que je voyais. Radar aboyait furieusement. Une main décharnée, dont les os jaunis transperçaient la peau déchirée, sortait du sol. Elle se refermait et s'ouvrait pour saisir et laisser couler de petites poignées de terre humide. Quand je voyais ce genre de scène dans un film d'horreur, j'éclatais de rire, je huais avec mes copains et reprenais du pop-corn à pleine main. Là, je n'avais aucune envie de rire. Je poussai un hurlement et la main m'entendit. Elle se tourna vers moi comme une putain d'antenne radar, en essayant de saisir le vide. Je me relevai d'un bond et pris mes jambes à mon cou. Radar cavalait à côté de moi en aboyant et en regardant derrière elle. J'atteignis la porte du cimetière. Elle était fermée à clé. Je reculai, baissai l'épaule et percutai la porte comme je percutais autrefois les défenseurs de l'équipe adverse. Elle trembla, sans s'ouvrir toutefois. Les aboiements de Radar gagnaient en intensité, comme si elle essayait de hurler elle aussi. En me retournant, je vis deux autres mains émerger du sol, telles d'horribles fleurs dont les pétales auraient été remplacés par des doigts. Quelques-unes tout d'abord, puis des dizaines, peut-être des centaines, accompagnées d'un bruit effroyable, des cris de gonds rouillés. Les cryptes libéraient leurs morts. Je me souviens d'avoir pensé qu'il était normal de punir les intrusions, mais là, ça devenait ridicule. Je donnai un nouveau coup d'épaule dans la porte, de toutes mes forces. La serrure céda. La porte s'ouvrit à la volée, et je me retrouvai propulsé vers l'avant, agitant les bras dans le vide pour essayer de conserver mon équilibre. Je faillis réussir. Hélas, je trébuchais sur quelque chose, le bord du trottoir peut-être, et tombai à genoux. En levant la tête, je découvris que j'avais atterri sur la route des Galiens. Je me remis debout, les genoux en feu et le pantalon déchiré. Je regardais le cimetière derrière moi. Aucune créature ne nous pourchassait, mais ces mains de squelette qui s'agitaient m'avaient suffi. Je pensais à la force nécessaire pour arracher des couvercles de cercueil et se frayer un chemin à travers la terre. Apparemment, les empissariens ne s'embêtaient pas avec des cercueils. Peut-être se contentaient-ils d'envelopper leurs morts dans des linceuls, en se disant « c'est très bien comme ça ». La brume qui montait du sol avait pris une teinte bleutée, comme si elle était électrifiée. « Cours !» criai-je à Radar. « Cours !» On fonça vers la porte du mur d'enceinte, comme si nos vies en dépendaient. 4. On avait débouché sur la route beaucoup plus loin que l'endroit où on l'avait quitté pour suivre les repères de M. Boditch. Mais je distinguais la porte du mur d'enceinte dans l'obscurité grandissante. À environ 800 mètres, j'étais essoufflé et mes jambes pesaient des tonnes. En partie parce que mon pantalon était trempé et lesté de vase, conséquence de ma chute du piédestal, mais surtout à cause de l'épuisement. J'avais fait du sport pendant toutes mes études en évitant le basket. Pas seulement parce que je n'aimais pas beaucoup le coach Harkness, mais parce que, compte tenu de ma taille et de mon poids, courir n'était pas mon truc. Raison pour laquelle je jouais première base durant la saison de baseball, la position défensive qui exigeait le moins de vitesse. Je dus ralentir et trottiner. Même si la porte semblait toujours aussi éloignée, c'était nécessaire si je ne voulais pas être obligé de m'arrêter totalement à cause des crampes. Soudain, Radar tourna la tête et se remit à pousser ses aboiements aigus et angoissants. Suivant son regard, je vis une nuée de lumière bleue brillante venir vers nous en provenance du palais. Les soldats de la nuit, certainement. Sans perdre de temps à essayer de me persuader du contraire, j'accélérai de nouveau. Ma respiration s'emballait. Chaque inspiration et expiration était plus brûlante que la précédente. Mon cœur grondait. Des taches lumineuses clignotaient devant mes yeux. Elles s'élargissaient, puis se contractaient. En me retournant, je constatais que les lumières bleues s'étaient rapprochées. Et elles continuaient à gagner du terrain. C'étaient des hommes, chacun entouré d'une intense aura bleue. Je ne voyais pas leur visage, et je n'y tenais pas. Je trébuchais tout seul, comme un idiot. Parvins à rétablir mon équilibre et continuai à courir. Il faisait totalement nuit maintenant, mais la porte était d'un gris plus clair que le mur et je voyais qu'elle s'était enfin rapprochée. Si je parvenais à conserver cette allure, on avait peut-être une chance. Je sentis naître un point de côté, léger tout d'abord, puis plus marqué. Il remonta le long de ma cage thoracique, jusque sous mon aisselle. Mes cheveux mouillés tressautaient sur mon front. Mon sac à dos cognait contre mes reins, leste supplémentaire. Je m'en débarrassais et le balançais dans un tas de ronces à côté d'un bâtiment orné de tourelles et flanqué de colonnes à rayures rouges et blanches surmontées de papillons de pierre. Ces statues étaient demeurées intactes, sans doute parce qu'il fallait une échelle pour les atteindre. Je trébuchais encore une fois sur un enchevêtrement de câbles de tramway tombés à terre, mais là encore, je parvins à redresser ma course. Les soldats de la nuit se rapprochaient. Je pensais au revolver de M. Boditch, mais à supposer qu'il soit efficace face à ces spectres, ils étaient trop nombreux. C'est alors qu'une sorte de miracle se produisit. D'une seconde à l'autre, mes poumons semblèrent se dilater et mon point de côté disparut. Je n'avais jamais couru assez longtemps pour faire l'expérience du second souffle, même si cela m'était déjà arrivé après avoir pédalé pendant longtemps. Je savais donc que ça ne durerait pas, Mais ce n'était pas nécessaire. La porte n'était plus qu'à 100 mètres. Risquant un coup d'œil par-dessus mon épaule, je m'aperçus que la troupe éclatante des soldats de la nuit avait cessé de gagner du terrain. Je regardais devant moi et passais la vitesse supérieure, la tête rejetée en arrière, poings serrés, mes bras s'agitant comme des pistons, respirant plus profondément que jamais. Pendant une trentaine de mètres, je parvins même à devancer Radar, jusqu'à ce qu'elle me rattrape et me regarde. Plus de grands sourires du style « Qu'est-ce qu'on s'éclate ?» sur ses babines. Ses oreilles étaient plaquées sur son crâne et des cercles blancs entouraient ses yeux marrons. Elle semblait terrorisée. Enfin, la porte. J'avalais une dernière grande bouffée d'air et hurlais « Ouvrez au nom de Léa des Galiens !» L'antique mécanisme installé sous la porte s'anima dans un crissement qui se transforma en un grognement sourd. La porte trembla, puis se mit à coulisser sur son rail invisible, lentement, trop lentement, je le craignais. Les soldats de la nuit pourraient-ils sortir des limites de la ville si on réussissait à se faufiler par l'ouverture? Je devinais que non. Leurs auras bleues s'éteindraient et ils tomberaient en poussière, ou ils fondraient comme la méchante sorcière de l'Ouest. 2 centimètres. 5. J'apercevais une fine bande du monde extérieur. Là où il y avait des loups, mais pas d'hommes bleus brillants ni de mains décharnées qui émergeaient de la terre d'un cimetière. En me retournant de nouveau, je les vis véritablement pour la première fois. Une 20aine d'individus, ou plus, aux lèvres couleur de sang séché et aux visages pâles ridés comme des parchemins. Ils étaient vêtus de pantalons et de chemises amples qui ressemblaient curieusement à des treillis militaires. La lumière bleue jaillissait de leurs yeux vers le sol et les enveloppait. Leurs traits étaient ceux d'hommes ordinaires, mais diaphanes. J'apercevais leurs crânes à travers. Ils fonçaient vers nous, laissant dans leur sillage des petites éclaboussures de lumière bleue qui faiblissaient puis mouraient, mais je me disais qu'ils n'arriveraient pas à temps. 8 centimètres. 10, oh bon sang, c'était trop lent. Soudain retentit une cloche de pompier à l'ancienne. Clang, clang, clang. Et le groupe des hommes squelettes bleus se scinda. Une 12aine à gauche et le reste à droite. Un véhicule électrique semblable à une voiturette de golf taille XXL ou à un bus découvert, compact, remonta la route des Galiens à toute allure. À l'avant, un homme. J'emploie ce terme délibérément. Ses longs cheveux grisonnants encadraient un horrible visage à moitié transparent. Grand et émacié, il agitait une sorte de manche à balai. D'autres individus s'entassaient derrière lui. Leurs auras bleues se chevauchaient et gouttaient sur la chaussée mouillée comme un sang étrange. Le véhicule fonçait droit sur moi. Aucun doute, le conducteur voulait m'écraser contre la porte. Je n'allais pas m'en tirer finalement. Mais ma chienne avait encore une chance. « Radar ! Retourne chez Claudia !» Elle ne bougea pas. Elle me regardait d'un air terrorisé. « File, Radar ! Pour l'amour du ciel ! Sauve-toi !» Je m'étais débarrassé de mon sac à dos parce qu'il me ralentissait, d'autant qu'il était mouillé. Le revolver de M. Bodich, c'était différent. Je ne pourrais pas abattre suffisamment de soldats de la nuit pour les empêcher de m'atteindre, et je n'avais pas l'intention de les laisser s'en emparer. Je débouclais la ceinture ornée de concho et la lançais dans l'obscurité par l'ouverture. S'il voulait mon calibre 45, il serait obligé de franchir le mur d'enceinte. Je donnai une tape sur l'arrière-train de Radar, sèchement. La lumière bleue m'inonda. Je sais que l'on peut se résigner à mourir, car c'est ce que je fis à cet instant. « Va chez Claudia ! Va chez Dora ! Sauve-toi !» Radar m'adressa un dernier regard meurtri. Je ne l'oublierai jamais. Et se faufila par l'ouverture. Quelque chose me frappa, avec assez de force pour me projeter contre la porte qui continuait à coulisser, mais pas assez pour m'écrabouiller. Je vis le soldat de la nuit aux cheveux gris bondir au-dessus de son manche à balai. Je vis ses mains tendues, les os de ses doigts à travers la peau cireuse et luisante. Je vis ses dents et sa mâchoire figées en un sourire éternel. Je vis les flots bleus d'une sorte de pouvoir régénérant effroyable se déverser de ses orbites. L'ouverture de la porte était suffisante pour me laisser passer maintenant. Je plongeai à terre pour éviter les doigts avides de la créature et fis une roulade vers la sortie. L'espace d'un court instant, j'aperçus Radar arrêté à l'extrémité de la route du royaume dans l'obscurité. Elle me regardait. Elle espérait. Je plongeais vers elle, main tendue. Au même moment, ses terribles doigts se refermèrent autour de ma gorge.
« Non, petit !»
murmura le soldat de la nuit mort-vivant.
« Non, homme saint, tu es venu au Lily sans y être invité et tu vas y rester. »
Il se rapprocha. Une tête de mort souriante sous une fine pellicule de peau pâle. Un squelette ambulant. Les autres se rapprochèrent à leur tour. L'un d'eux cria un mot. Je crus entendre « Elimar », contraction d'Empis et de Lilimar. Mais aujourd'hui, je sais. La porte se referma. La main morte se resserra autour de ma gorge, m'empêchant de respirer. « Sauve-toi, Radar. Sauve-toi et cache-toi. » Telle fut ma dernière pensée.